Mes frères bien-aimés, ce qui saute aux yeux dans cet évangile, c'est bien évidemment la simplicité avec laquelle Jean, André et Pierre se mettent à la suite du Christ. C'est tout de même inouï. Ces trois hommes ne le connaissent ni d'Ève ni d'Adam, et pourtant, sans sourciller une seconde, ils emboîtent le pas derrière le sien jusqu'à mener vie commune avec lui. On est alors tenté d'affirmer, pour justifier leur réaction stupéfiante, que ces trois premiers apôtres étaient en présence du Fils de Dieu, lequel devait exercer une force d'attraction unique sur le cœur humain. Mais cela ne saurait être suffisant, car de nombreuses autres personnes ont exercé une pareille influence et on les appelle les saints. Regardez ne serait-ce qu'un François d'Assise. Il en a eu des frères, plus de 5000 en seulement 10 ans, qui ont tout quitté pour vivre à sa suite une vie hérémétique loin d'être attirante, c'est le cas de le dire. Pour répondre à notre étonnement, il faut donc scruter un peu plus profond et trouver ce qui est commun au Christ et aux saints. Eh bien, ne cherchons plus. La réponse se trouve dans l'évangile du jour, au dernier mot plus précisément. C'est que le bon Dieu aime bien titiller un peu notre patience. Et ce dernier mot, le voici, Pierre. Et oui, aussi étonnant que cela puisse paraître, si tous les saints qui émaillent nos calendriers ont transformé leur époque, c'est parce qu'ils étaient des pierres. Mais attention, pas parce qu'ils étaient durs et froids comme du marbre, loin de là, mais parce qu'ils possédaient la densité du roc. Autrement dit, quand on les rencontrait, ce qui était séduisant, c'est qu'on avait en face de soi des personnes à part entière, et non de ces mollusques inconsistants qui nous échappent quand on essaye de les saisir, ce qui est désagréable au possible et qui empêche surtout toute vraie relation. Remarquez d'ailleurs que cela dépasse le cadre des liens humains. La densité des réalités qui nous entourent est une nécessité pour que notre vie puisse se déployer harmonieusement. Si rien n'avait de consistance, si tout était fluide, mais ce serait invivable. Vous prenez un stylo dans la main et voilà qu'il fond entre vos doigts, sans même que vous n'ayez pu écrire un seul mot. Vous montez dans votre voiture et voilà que vous vous enfoncez dans le siège et finissez les fesses par terre, avant même que vous n'ayez pu faire un mètre. Cela tombe sous le sens. Notre vie telle que nous la connaissons sur Terre, requiert que certaines choses soient solides. Et la personne humaine appartient à ce dernier ensemble. Elle doit avoir une certaine stabilité interne. C'est ce que nous explique l'anthropologue Claude Lévi-Strauss. Chaque homme, observe-t-il, se développe grâce à ses échanges avec d'autres hommes. Mais il faut que chacun y mette une certaine résistance. Sinon, très vite, les hommes n'auraient plus rien qui leur appartiendrait en propre à échanger. Et il conclut, si l'absence de communication est un danger, l'excès de communication l'est tout autant. Voilà une vérité que nous ne devons jamais mettre de côté. Il faut une certaine résistance pour qu'une réalité subsiste. Résistance par rapport à l'extérieur, il ne faut pas tout accepter qui vienne de l'extérieur. Et résistance par rapport à l'intérieur, il ne faut pas tout dissiper qui est à l'intérieur. Et ce double mouvement de résistance est ce qui permet la densité même d'un être. C'est seulement sous cette condition qu'une réalité peut exister de manière durable, qu'une réalité peut être attirante, qu'un être peut se donner sur de longues périodes sans se vider de lui-même et finir affamé à son tour. La résistance est donc féconde. Alors que le laisser-aller poussé à l'extrême, où chacun déverse et éparpille son être intérieur autour de lui, où chacun se laisse envahir et submerger par tout ce qui l'entoure, ce mélange ne produit qu'une seule chose, une masse informe, où plus rien n'existe vraiment, une bouillie fade, où plus rien n'a de goût. On pourrait penser que résistance est synonyme de fermeture. En fait, résistance renvoie à la notion de stimulation. C'est ainsi. Quand l'autre qui est devant nous est différent de nous, quand il affirme des positions qui semblent plus justes, quand il est supérieur à nous sur certains points, il nous remet en cause et par là réenclenche les énergies qui dormaient au fond de notre être et nous cherchons alors à le rencontrer de nouveau. Aussi, si l'on veut que l'humanité atteigne des sommets, il ne faut pas la penser comme une pâte visqueuse où l'individu se perd dans le tout, mais comme une chaîne d'individus distincts et uniques qui se hissent les uns les autres pour atteindre des sommets. Il est maintenant temps que je finisse, mes frères, aussi je me permets de reformuler ce que l'Évangile vient de nous dire. Pour suivre le Christ, Pour imiter les saints, il nous faut être des pierres. Il nous faut avoir la densité du roc. Autrement dit, nous devons travailler à constituer en chacun de nous un univers personnel dans lequel notre prochain puisse trouver le soutien et la fraîcheur dont il a besoin. Nous devons ensuite respecter cet univers que nous aurons construit en nous-mêmes en l'alimentant uniquement avec ce qui le fait grandir et en ne le dilapidant pas inutilement aux quatre coins du globe. Enfin, nous devons honorer l'univers des autres en leur laissant l'autonomie dont ils ont besoin et en ayant recours à leurs qualités, ce qui prouvera leur grandeur unique. Alors, nous formerons déjà sur terre l'Église du ciel, où les anges ne convoitent pas les hommes mais les vénèrent, où les hommes ne jalousent pas les anges mais les contemplent, et où les 12 apôtres, qui étaient des rocs, constituent le roc éternel sur lequel est fondée la Jérusalem céleste. Amen.